Salut, bienvenue sur Be My Fetish, le podcast qui s'intéresse à différentes pratiques sexuelles dites entre guillemets inhabituelles ou entre guillemets non classiques. Ici, on va explorer les pratiques sexuelles alternatives comme les kinks, le fétichisme, le BDSM, afin que le fait d'en parler et de les réaliser ne soit plus ni une honte ni un tabou et de déconstruire les stéréotypes. Avertissement. Cet épisode a été enregistré le 30 janvier 2022 et reflète les opinions et les connaissances de mon invité ainsi que les miennes à cet instant T. Cet épisode s'intéresse à la pratique du cast ou du plâtrage en français. La pose d'un plâtre est un acte médical et en France, seules les personnes médecins, infirmières et étudiantes en médecine formées aux immobilisations plâtrées ou en résine sont légalement autorisées à les réaliser. Nous évoquerons notamment la pratique qui consiste à se blesser volontairement dans le but de se faire appliquer un plâtre par des professionnels de santé. Il est important de ne pas stigmatiser et de rappeler que les personnes qui le souhaitent peuvent bénéficier d'une écoute et d'un accompagnement, notamment avec des psychologues. Pour ce nouvel épisode, je reçois J'Immobilize qui va nous parler de son kink pour le cast et du fait que ce fétichisme peut, selon lui, avoir des origines multiples. Nous évoquerons la pratique du publicking, qui consiste à se balader en extérieur tout en étant plâtré, ainsi que les risques liés au fait de se faire plâtrer. J'Immobilize donnera aussi quelques conseils sur le matériel nécessaire et les précautions à prendre pendant la pose du plâtre. Bonne écoute! Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Alors, je m'appelle sur mes réseaux sociaux J'Immobilize, jeu de mots que j'espère que les gens comprendront. J'ai 52 ans, j'habite en région parisienne et mon fétiche principal est justement le cast, donc le plâtrage, et donc voir des gens immobilisés ou porter des plâtres. Voilà.
D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste le plâtrage, le cast?
Alors, plusieurs choses. Alors, soit on se place, on veut être la personne plâtrée, soit on veut voir des personnes plâtrées, pour faire de façon très générale. Moi, j'aime les deux positions, c'est-à-dire j'aime bien porter des plâtres, mais j'aime aussi également maintenant voir d'autres hommes porter des plâtres, puisque je suis gay.
D'accord.
Donc j'aime les deux. Et de plus en plus avec l'âge, je crois que je préfère presque plus voir sur les autres que sur moi. Néanmoins, porter un plâtre de temps en temps reste toujours très agréable et très, très intéressant.
D'accord. Et qu'est-ce que ça signifie justement être casteur? Est-ce que tu peux nous expliquer
alors,
un peu plus en quoi ça va consister?
Alors, être casteur, ça va avoir plusieurs définitions, c'est-à-dire... Quand on va dire un casteur, ça va être plutôt la personne qui va plâtrer. Mais c'est vrai que maintenant, entre nous, un casteur, c'est aussi quelqu'un qui va aimer porter les plâtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà une communauté qui est bien plus importante qu'il n'y paraît. C'est le terme qui est utilisé plutôt de façon internationale, puisque les premiers sites web étaient principalement en anglais. Il y avait quand même un site français, que je salue au passage. Peut-être qu'il se reconnaîtra. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme beaucoup de fétiches, donc c'est un fétiche qui peut avoir plusieurs origines ou plusieurs envies. Ça peut avoir une origine médicale, puisque ça a un rapport avec la médecine, puisqu'il y a un plâtre. Ça peut avoir un rapport avec certaines formes de bondage. Ça peut avoir aussi une forme de personnes qui sont très empathiques et qui ont envie de s'occuper d'une personne qui porte un plâtre. Il y en a beaucoup dans la communauté aussi qui aiment ça. Et puis, il y a aussi une communauté qui aime les pieds, les orteils. Et je pense que ça peut être aussi très lié à ça. C'est-à-dire que beaucoup ne vont pas aimer les gros plâtres, vont juste aimer juste une cheville pour les orteils, pour comme ça. Moi, pour ma part, c'est plutôt le côté un petit peu bondage que j'aime bien maintenant avec l'âge. J'aime le côté médical, puisque c'est vrai que je trouve qu'un plâtre apporte une esthétique à un membre beaucoup plus... Je trouve ça esthétique, tout simplement. Et moi, j'ajoute aussi dans mon fétiche un petit peu tout ce qui est, je vais dire, documentaliste, c'est-à-dire prendre des photos, prendre des vidéos et essayer de trouver un petit peu des angles nouveaux pour présenter ce fétiche sur mes réseaux sociaux, pour sortir un petit peu des photos habituelles qu'on voit. Et c'est vrai que c'est une partie que j'aime beaucoup faire et qu'il y a l'esthétique du plâtre, justement.
D'accord. Voilà. Et est-ce que dans la communauté, il y a aussi des personnes du coup attirées plus par la partie sadomaso peut-être? Donc les personnes qui vont aimer le côté soit une personne qui a mal, mais aussi une personne qui va aimer voir l'autre, je sais pas,
Souffrir.
avoir des difficultés à marcher, à se déplacer, etc. Et dans l'autre sens, des personnes qui vont aimer aussi ces sensations.
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le côté bondage pur, c'est-à-dire je crois que c'est pas tant la douleur que la personne va apprécier, mais c'est voir la difficulté de l'autre personne à se mouvoir avec un plâtre, c'est quelque chose que moi j'aime, j'avoue, et même le vivre, hein, finalement. Et je pense que ça rentre plus, je parle pour moi, dans une relation dominant-dominé. C'est-à-dire que on peut avoir un jeu comme ça, et en discutant avec beaucoup de personnes sur Internet, je m'aperçois que c'est peut-être ce qu'ils cherchent. Après, pour l'autre partie, plus douleur, où là on est vraiment chez des sadomasochistes, hein, parlons clairement. Alors, pareil, toujours deux choses, il faut différencier ceux qui ont tellement envie de porter un plâtre, qui sont prêts à se faire mal pour porter un plâtre. Je ne juge pas, mais je ne serais jamais impliqué, moi, par exemple, dans ce genre de démarche parce que je la cautionne pas. Et puis après, ça peut être un jeu aussi, c'est-à-dire que un jeu de rôle pendant que l'un ou l'autre porte un plâtre, où l'autre va faire semblant d'avoir mal, l'autre va faire semblant. Donc là, c'est plus un jeu qui peut être amusant un certain temps, mais qui, pour moi, oui, 5 minutes, ça va, mais après, je trouve que ça peut vite tourner au ridicule. Mais certains aiment bien. Hein. J'ai quelqu'un en mémoire qui aimait bien, quand j'étais plâtré, prétendre que j'avais mal, que j'étais en souffrance. Bon, voilà, c'est un jeu. Après, on accepte, on n'accepte pas. Mais voilà, pour répondre, enfin, j'espère répondre à ta question,
Oui,
mais
complètement.
voilà.
D'accord. Et toi, du coup, à quel âge est-ce que tu as découvert que tu aimais le cast, le plâtre et comment?
Moi, c'est une anecdote qui, je pense, était le point d'origine. J'avais une nounou, tout simplement, qui me gardait quand j'étais jeune. Donc, je pense que j'avais 6-7 ans, peut-être pas plus. Et son gendre s'est cassé la jambe en moto. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a d'autres choses dans mes fantasmes par rapport aux tenues de moto. Et du coup, comme sa fille ne pouvait pas garder son mari, donc c'était sa belle-mère qui le gardait, il a hérité d'un superbe plâtre, donc la jambe complète, des orteils jusqu'en haut de la cuisse en plâtre, puisque à mon âge, évidemment, il n'y avait pas encore de résine, c'était du plâtre. Et c'est une personne que j'aimais bien comme enfant, hein, comme on aime bien certains adultes qu'on trouve gentils, que vraiment. Et j'étais juste impressionné par cette masse blanche qui immobilisait sa jambe. Alors évidemment, il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien de. Mais j'aimais ce côté bloquant, peut-être déjà un peu, et j'étais mais juste impressionné. Et lui m'a beaucoup rassuré en disant, mais c'est bon, t'inquiète pas, j'ai pas mal. Il m'a fait toucher son plâtre. J'ai un petit souvenir qui, justement, à l'époque, on faisait souvent des petits trous sous le genou comme ça pour que les gens puissent se gratter. Il m'a dit, bah, regarde, mets ton doigt sous le genou, tu verras, c'est rien de grave. Et j'avoue, j'étais fasciné. Puis ça s'est transformé après, à l'enfance. Je regardais toujours mes petits camarades qui se cassaient un bras ou une jambe. Donc j'aimais justement la limitation du mouvement, déjà, et puis cette démarche différente qu'on peut avoir justement quand on porte un plâtre. Ça s'étendait un tout petit peu aussi aux attelles, puisqu'à l'époque, la polio était encore pas très bien soignée, et beaucoup de gens avaient aussi des adultes des attelles, et j'aimais bien aussi ce côté-là. Et l'adolescence, ça s'est transformé, moi, plus comme un fétiche sexuel sensuel, c'est-à-dire que j'imaginais une relation sexuelle avec des plâtres, mais sur moi à l'époque.
D'accord, ok.
Et puis, voilà, puis après, ça évolue, ça évolue. Il y a eu une espèce de perte de ça, mais c'était toujours présent, mais je m'en suis un peu éloigné. Et ce qui a tout réallumé, finalement, c'est Internet, hein, dans les années, au tout début des années 2000, et découvrir en tapant le mot plate, que finalement, tout de suite, dans les anciens moteurs de recherche, s'il y avait déjà des sites fétichistes par rapport au plâtre, et là c'est une douche froide, quoi, quand on se demande ce qui se tombe sur le coin de la tête, quoi.
Tu te souviens justement peut-être du nom de ces sites à
Oui,
l'époque?
deux sites, un plâtre de Paris, et le sous-thème c'était pour ceux qui aiment prendre leurs pieds dans le plâtre, donc je trouvais ça plutôt amusant. Et le second c'était un site américain qui s'appelait Cassroom, qui a maintenant disparu, qui était tenu par quelqu'un de très gentil, paix à son âme, Bob, qui était vraiment quelqu'un d'adorable et avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges par le passé. Et bon, bah, ces sites ont disparu depuis, mais après, il y en a eu un de référence. Je pense que tous les casseurs gays vont s'en souvenir, qui s'appelait Cascrazed. Et la personne a décidé d'arrêter son site puisqu'il avait trouvé l'homme de sa vie. Il ne voulait pas qu'il sache qu'il avait ce fantasme. Et donc, il a laissé mourir le site. Et c'est dommage parce que c'est un super site. Mmh. Et puis maintenant, bah, ça s'est plus transformé sur des forums et puis des réseaux sociaux.
D'accord. Et toi, justement, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu tires de cette pratique, que ce soit en termes de sensations, de ressentis que ça procure chez toi?
Alors, c'est très varié. La première, j'irais, c'est l'esthétique, c'est-à-dire de voir un membre immobilisé. Je trouve ça beau, tout simplement, quand le plâtre est bien réalisé et que... Alors, je suis plutôt amateur des grands plâtres, hein, c'est-à-dire, je ne vais pas apprécier juste une cheville, juste un poignet. Il faut que ce soit soit minimum le bras complet, soit minimum la jambe complète, pour moi. Ensuite, donc, déjà l'objet par lui-même et puis voir le membre plâtré. Ensuite, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'immobilisation. Donc, je pense que là, il y a plus un côté bondage, très sincèrement. Après, ça peut rentrer justement dans des jeux. Hein. Je dis toujours des jeux parce que dom sub, enfin dominant,
dominé. Soumis, enfin voilà, dans un rapport de soumission et de domination.
Ça peut être un jeu. Donc, dans ce cas-là, on va peut-être y associer d'autres kinks, finalement, comme des cages de chasteté, des neck posture collar, enfin des colliers, des choses comme ça, voilà. Plein de choses qu'on peut y ajouter autour. Bon, bah là, on rentre plus dans un jeu érotique et puis sensuel, puisque je suis pas du tout dans ce que je disais plutôt, dans quelque chose de violent ou faire mal. C'est pas du tout mon truc. Et puis, ben, après, il y a tout le côté un petit peu médical. Faut quand même, je le disais, le médical a quand même un petit côté sympa. Si on, ça devient pas ridicule à jouer, hein, j'ai mal, voilà, ça peut être très sympa. Et puis, ce que je disais, ben, le côté, c'est très prétention de dire art, mais ben voilà, après, prendre des vidéos, des photos et essayer de créer quelque chose autour de ça, peut-être pour rendre ça plus joli. Je sais qu'il y a des artistes qui existent, qui ont déjà exploité ça, oui. D'ailleurs, il y a un livre très récent qui est sorti. Par contre, bon, bah, c'est hétérosexuel, donc il en faut pour tous les goûts. Un qui est à nommer, qui est Romain Slocombe, qui est quand même historiquement très connu dans le milieu caster hétérosexuel, parce qu'il a pris souvent des femmes japonaises plâtrées. Et là, il y a un nouveau livre qui vient de sortir très récemment sur un site de crowdfunding, où ce sont des femmes sportives. Alors, même si j'ai aucune attirance particulière, je dois admettre que les photos sont très belles, puisque j'ai vu quelques exemples sur certains en public, évidemment. Certains de mes contacts hétérosexuels casteurs sont aux anges avec ce type de livre. et pourquoi pas, à un moment, peut-être pas moi, mais peut-être penser à qu'enfin, il y a une publication un peu plus artistique sur des photos avec des hommes, quoi.
Pourquoi pas.
Okay. Et je te donnerai les références de ce livre pour si ça t'intéresse.
Donc voilà. Parfait. Et peut-être après, plus sur le plan psychologique, émotionnel, est-ce que ça suscite quelque chose en toi?
Oui, bien sûr, il y a une... Oui, tout à fait. En fonction de la personne, en fonction d'un mouvement, en fonction d'une certaine intimité avec la personne, bien sûr, je vais être très franc, c'est très excitant. Mais c'est une double excitation, il y a une excitation, j'irais, psychique, dans un premier temps, avec tous les domaines du possible qu'il peut y avoir avec ce plâtre, enfin que la personne porte, et il y a une excitation sexuelle, hein, on va être très très franc. Et c'est là où justement, pour ma part, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que si c'est pas moi qui porte le plâtre, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à vouloir être le dominant, tandis que si je porte le plâtre, là je pense que je pourrais être beaucoup plus ouvert à être soumis, finalement.
D'accord.
Et c'est peut-être quelque chose que j'aimerais explorer aussi, avec évidemment des règles, hein, comme dans tout kink, il y a des règles, il y a des choses à respecter, et voilà.
Il y a peut-être un aspect vulnérabilité aussi au fait d'être plâtré et d'être la personne qui plâtre, du coup, avec ce côté un peu plus dominant, dominante, qui a le contrôle sur la situation.
Oui, puis c'est tout dans le mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est justement voir toutes ces restrictions que peut avoir l'autre personne à ne pas pouvoir bouger qui est excitante pour moi. Donc là, je pense qu'on est dans une forme de bondage pur. Mais il y a un autre aspect aussi que j'ai pas évoqué, mais qui est important, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le publicking. C'est-à-dire, à partir du moment où la personne porte un plat de façon raisonnable, c'est-à-dire une jambe, un bras, c'est de sortir dehors, parce que c'est un aspect qui est très important aussi pour moi. Je trouve ça intéressant, tant pour moi que pour les autres, de vivre le plâtre comme si c'était un vrai plâtre dans la vie. C'est-à-dire sortir au restaurant, aller au cinéma. Et ça, c'est un aspect qui est très intéressant aussi, qui peut justement sur le plaisir, là, ça va être plus un plaisir psychique, finalement, psychologique, de voir la personne ou de le vivre soi-même en allant dehors, en ayant cette difficulté, de devoir vivre avec ce plâtre au quotidien
Ouais,
dans la
vraiment,
fête.
effectivement. Se mouvoir dans sa vie quotidienne et pas
Exactement.
juste être assis ou allongé sur son
Oui,
canapé.
je trouve ça très ennuyant. D'ailleurs, c'est d'ailleurs la limite de ce fétiche. Enfin, on se les fixe nous-mêmes, les limites. Mais idéalement, je sais que certains Américains osent. J'adorerais pouvoir organiser un publicking avec des plâtres assez importants, ce qu'on appelle les doubles hipspica, c'est-à-dire les deux jambes jusqu'en haut du torse. Si c'est bien organisé, si c'est vraiment toute la sécurité, la confiance faite, moi j'avoue, j'aurais pas honte de faire un publicking avec quelqu'un dans ce type de plâtre à l'extérieur. Après, je cherche pas tant, enfin c'est pour moi, après il y en a, ils aiment ça, j'aime pas tant l'exposition juste faire voir pour faire voir, c'est plus pour le côté comment la personne va le vivre et comment elle va devoir vivre avec ça dans la vraie vie. Parce que j'ai pas de côté show-off, enfin c'est par contre c'est ma nature, j'ai pas de côté à vouloir montrer les choses, mais je sais que certains aiment ça. Certains aiment beaucoup montrer, regardez mon casque, il est beau, mon plâtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a qui aiment ça. Moi non, par contre je suis quelqu'un de plutôt réservé et timide, donc ça c'est une partie que j'apprécie pas trop.
Surtout que je me dis que en exposant son casque, donc en faisant du publicking dans le but que les autres le voient et peut-être interagissent avec nous en tant que casteur ou casté, va y avoir des questions. Comment est-ce que tu t'es
C'est
blessé?
ça.
Ça fait combien de
C'est
temps?
ça.
Etc. Etc. Et du coup, là, je pense que ça pose question parce que pour les personnes qui n'ont pas de blessure, ça va y avoir un. Enfin, je pense qu'il faut le dire tel que les choses sont, sans jugement de valeur. Va y avoir un mensonge, en tout cas, y a, sur ce point. Et dans ce cas-là, voilà, ça peut poser question par rapport à comment est-ce qu'on vit son fétichisme, au fait aussi peut-être que des personnes extérieures à ça rentrent dans cette. Dans le kink de la personne sans son consentement.
Oui, oui,
Enfin, sans
oui.
le consentement des personnes extérieures, je veux dire.
Il y a le mensonge, tout est basé sur un mensonge. Après, je pense qu'il y a deux types de personnalités casteurs qui vont réagir à ça. Il y en a au contraire, ça va énormément leur plaire que justement cette personne extérieure interagisse avec eux parce que ça va peut-être encore plus eux les émoustiller ils croient que c'est un vrai casse, donc c'est ça que j'aime
Ça veut
montrer.
dire que c'est
C'est
réussi,
réussi,
etc.
voilà. Et puis il y a ceux peut-être plus réservés comme moi, quand moi je porte un plâtre à l'extérieur, où j'évite ces interactions au maximum, je reste très courtois, très poli. Alors un petit conseil pour ceux justement qui veulent le faire, se donner une histoire dès le départ avant de sortir et rester toujours, toujours, toujours sur la même histoire justement pour pas se contredire, parce que ça peut amener des situations et des assez amusantes. Un exemple, un ami casteur du sud de la France qui était monté à Paris pour une soirée pour se faire justement une jambe complète. On est rentré chez moi en taxi et sur à peu près 10-15 minutes de trajet, il avait raconté trois histoires différentes par rapport à ce qui lui était arrivé à sa jambe, tellement il était paniqué, tellement il ne savait pas quoi répondre au chauffeur de taxi. Donc évidemment, à l'arrière du taxi, j'étais mort de rire parce que c'était très amusant. Et je me suis dit, à un moment, le chauffeur de taxi, il va dire, mais il se passe quoi? Il se passe quoi? Donc non, non, il y a plein de situations cocasses et amusantes justement comme ça qui... C'est ce qui fait un peu de piment, parce qu'à un moment dans tout kink, il faut aussi avoir un peu d'humour, un peu de recul, un peu de... Parce qu'il y a de l'humour. Faut en rire, hein. À un moment, il faut en rire, faut pas le prendre trop au sérieux. Il faut le faire sérieusement, faut l'organiser sérieusement, mais il faut aussi de l'humour dessus, sinon ce sera ennuyeux. Hein. S'il n'y avait que ce côté sensuel, sexuel et psychologique, ce serait vite ennuyé. Il faut introduire un peu d'humour.
D'accord. Et justement, il y a aussi des casteurs, des personnes de la communauté aussi, qui, du coup, avant de réaliser un plâtre, vont volontairement se blesser. Est-ce que tu peux nous en parler? En quoi ça consiste? Comment est-ce qu'elle quelle est l'idée peut-être derrière tout ça?
Alors, c'est compliqué à dire. Je pense qu'il y a deux idées. Soit ils sont tellement malheureux. Bah oui, je peux même le dire par rapport à quelqu'un que j'ai en tête là. Il était tellement malheureux de ne pas pouvoir porter de plâtre qu'à un moment, bah, il a pris un marteau, il a voulu se casser un membre avec un marteau. Bon, il s'est raté. Moi, au fond de moi-même, je dis tant mieux parce que. C'est pas bien, je pense, de provoquer ce genre d'incident, parce que bah, ça a des incidents sur la société aussi, hein. On en a un petit peu discuté, donc je
Oui,
trouve
que ce
ça pas très.
soit en termes de bah, ça va
D'assurance.
mobiliser des professionnels de santé,
Exactement.
ça va leur demander du temps, du travail.
Exactement.
Il y a aussi financièrement, ça a un impact pour ces personnes-là et pour l'assurance, sécurité sociale, etc.
Exactement, donc là, je pense que c'est un problème plus moral par rapport à ça et civique, soyons clairs. Et puis le danger, c'est-à-dire qu'à un moment, on pense qu'on va pouvoir se blesser pour avoir un plâtre, mais on peut se rater et que ce soit trois fois pire que juste un plâtre. Donc, personnellement, je trouve ça inconscient. Après, chacun fait ce qu'il veut, je ne vais pas juger, mais moi, j'avoue, je désapprouve un petit peu ce type de pratique.
Plus je pense à un autre élément qui est quand même aussi fondamental. On va à l'hôpital, enfin on entre en contact avec un professionnel de santé quand enfin bah, parfois c'est on va voir certains professionnels de santé pour anticiper, pour des questions de bien-être, etc. Ou parce qu'il y a une pathologie, il y a une blessure, etc. Mais du coup, ça veut dire que là, potentiellement, on prend la place de quelqu'un, en fait, qui peut en avoir besoin, qu'elle soit blessée ou pas, mais en tout
Bien
cas,
sûr.
qui, d'une certaine manière, en a besoin. Donc voilà, ça pose aussi question, surtout, enfin, aux urgences, par exemple.
Mais tout à fait. Mais j'ai un autre exemple aussi, c'est-à-dire que en mémoire, le tout premier casseur d'ailleurs que j'ai rencontré pour de vrai et à qui j'ai eu ma première expérience, donc lui était devenu casseur suite justement à un incident qu'il a eu réel. Et il a hérité de ce qu'on appelle un CLC, c'est-à-dire c'est comme la jambe complète mais sans la cheville. Et lui a tellement aimé qu'il a feint les mêmes symptômes une deuxième fois à l'hôpital, donc sans se blesser justement pour avoir la même chose. Donc c'est-à-dire qu'à un moment on peut avoir un vice, enfin c'est pas non, c'est pas un vice, on peut avoir cette une forme d'intelligence finalement de dire bah tiens, comment je peux prétendre sans casser une jambe pour avoir un plâtre. Et je sais qu'il y a eu des discussions comme ça souvent sur des forums. Voilà, comment feindre certaines douleurs pour avoir un plâtre. Alors, je vais être plus, on va dire, gentil envers ces gens-là, parce que même si, évidemment, ils mettent enfin, c'est pas bien pour les équipes médicales, pour tout ça, mais je veux dire, là, il y a moins de risques. Voilà, il y a moins de risques pour le
Alors, c'est
casseur.
sûr, effectivement, pour eux, en termes de santé physique, il y a moins de risques. Effectivement, comme tu le disais, il n'empêche que ça a un coût
Oui, c'est pour la
pour
société.
la société. Et voilà, je pense que c'est important de le garder en tête avant d'entreprendre ce genre de pratique.
Moi je la cautionne pas. Et puis après, pour la deuxième partie, c'est qu'il y en a qui sont déjà casteurs, qui ont déjà eu des expériences en portant des plâtres, mais quand même cherchent à avoir des vrais plâtres médicaux et font ce même genre d'action justement pour avoir.
Oui, il y a ça aussi, tu le disais tout à l'heure, le fétichisme de l'univers médical.
Oui.
Il y a, parce qu'en soi, on peut se blesser soi-même, se plâtrer soi-même si on veut, même si effectivement, il peut y avoir des conséquences parce qu'on n'est pas forcément professionnel de santé, etc., etc. Mais il y a l'aspect, du coup, être plâtré, être pris en charge par un professionnel de santé dans un établissement de santé avec tout l'équipement qui va avec.
C'est ce qu'on appelle souvent dans le jargon ceux qui aiment les long-term adventures, c'est-à-dire ceux qui veulent porter un plâtre très longtemps. Donc en gros, deux hypothèses s'offrent à eux et en fonction aussi du contexte légal dans chaque pays, évidemment. Donc il y a ceux qui vont se prendre en charge et faire eux-mêmes leur plâtre et puis le garder 3 semaines, 4 semaines en prétendant que c'est un plâtre médical. Sauf qu'en France, c'est un petit peu compliqué parce que souvent, il faut que tu aies des autorisations médicales pour pouvoir travailler. Quand c'est la jambe complète ou comme ça, on va quand même avoir un cadre légal qui va t'autoriser. Et par contre, aux États-Unis, très souvent, il y en a, ils portent des plâtres 3-4 semaines, ils prétendent que ce sont des plâtres médicaux auprès de leurs employeurs et ça passe crème, hein, il n'y a pas de souci. Donc, pour ceux justement qui veulent rentrer dans ce contexte médical, donc il y a deux hypothèses, soit le vrai, c'est-à-dire se blesser sciemment, ou prétendre et garder le plat, par contre, comme si c'était médical sur le long terme. Il y en a qui aiment ça. Et certains, même quand on rentre souvent dans des jeux de rôle comme ça en ligne, bah donc je vais rester dans le plat pendant, bah on rentre dans la folie, pendant 2 mois, 3 mois. Voilà, il y a des gens qui aimeraient quelque chose de vraiment presque quasi permanent sur le plâtre.
Ouais. En soi, je pense que voilà, c'est comme tout Kings, on peut avoir des envies, des choses qu'on a envie d'explorer, etc. Et ça peut se comprendre. À mon avis, ça pose question après en termes d'impact. Ça va créer un impact sur le corps. Le corps humain n'est pas fait pour vivre dans de telles conditions. Non. Forcément, il va y avoir un impact en termes de santé. On sait que forcément, à un moment donné, que ce soit au court, moyen ou long terme, les conséquences qui vont résulter de ça vont impacter aussi la société parce que cette personne va, par exemple, j'imagine, avoir besoin de rééducation,
de kiné.
Donc, ça mobilise un professionnel de santé. Ça a un coût pour la sécurité sociale donc la société, etc., etc.
Et puis, il faut savoir, il y a plein de choses, j'ai en mémoire un exemple assez classique d'une personne justement qui a voulu faire un long terme en France, donc il ne l'a pas gardé longtemps, hein. Je crois qu'il avait gardé 10-15 jours, il y a eu quand même des complications parce que je pense que le plâtre était soit trop épais, trop gros à un moment, mais les médecins le savent, c'est-à-dire que quand on n'est pas médecin, et à un moment, donc il a été voir un spécialiste, il a dit mais vous avez porté un plâtre pendant un temps parce qu'ils ont des expériences. Et là, il s'est retrouvé un petit peu dans une situation où il ne pouvait pas dire « oui, j'ai eu un plâtre » parce qu'il aurait fallu qu'il se justifie sur plan médical. Il a dit « non, il fait « ah bon, c'est bizarre, on a l'impression que votre membre a été immobilisé pendant tant de temps. » Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, surtout quand on veut rentrer dans ce genre de trip long terme ou de trip médical. Il faut vraiment faire attention.
D'accord. Et pour revenir peut-être un peu plus sur toi, est-ce que tu as construit une relation peut-être en continuant à vivre ce qui...
Alors oui, oui, bien sûr. Après, oui, sauf que la personne m'a fait croire qu'elle était ouverte à ça. Par contre, c'était elle, dans ce qu'elle me disait, qui voulait être plâtrée, mais ça s'est jamais fait. Je pense qu'elle m'a enfumé, donc voilà. Bad story, on va dire, on va passer à autre chose. Oui. Mmh. Après, est-ce que, à terme, est-ce que j'aimerais avoir une relation basée là-dessus? Non. J'aimerais que ce soit un plus, mais parce que je pense qu'une relation ne peut pas être basée sur un ou deux kings. Il faut beaucoup plus pour créer une relation. Néanmoins, évidemment, comme beaucoup de casteurs célibataires, on aimerait que notre partenaire soit ouvert à nos kings et qu'on puisse les vivre de temps en temps à tour de rôle. Bien sûr que je rêve de ça, mais par contre je ne crois pas aujourd'hui que je pourrais me lancer une relation sérieuse juste parce qu'on s'est connu là-dessus. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus derrière, parce que la vie elle est quand même beaucoup plus polyforme que juste il y a des plâtres, voilà.
Comme pour n'importe quelle relation, en fait. C'est difficile de construire une relation sur un seul élément, même si c'est un élément important dans le cadre de votre vie.
Alors après, si j'avais assumé beaucoup plus tôt déjà ma sexualité et ce kink, on ne sait pas, peut-être qu'en étant plus jeune, ça peut être le point d'entrée de quelque chose. Mais maintenant, à mon âge, non, je sais qu'il faudra qu'il y ait beaucoup plus derrière pour que ça finisse en relation sérieuse.
Voilà. D'accord. Et justement, en parlant de si tu avais accepté donc ton kink en étant plus jeune, qu'est-ce que tu penses de l'évolution peut-être de cette pratique depuis le moment où toi tu as commencé à la vivre et aujourd'hui?
Alors, je ne veux pas généraliser parce que chacun a une histoire différente. Moi, j'ai eu beaucoup de mal déjà à assumer mon homosexualité. On va parler clairement, je l'ai assumé après 30 ans. Et je savais qu'il y avait ça aussi qui était sous-jacent, ce kink plâtre. Je pense que le kink plâtre en petite partie m'a aidé à assumer mon homosexualité, je ne sais pas pourquoi.
D'accord.
Il y avait d'autres choses. Néanmoins, ça c'était un point sur lequel je m'étais fixé. Je ne voulais pas rencontrer ma sexualité de façon très réelle au milieu du kink. C'est-à-dire j'ai voulu dissocier les deux choses. Mm-hmm. Et c'est pour ça que le premier casteur que j'ai rencontré était hétérosexuel. Comme ça, je savais qu'il n'y avait aucun... il n'y avait pas d'arrière-pensée, donc je pouvais vivre mon kink cast de façon complètement indépendante et après, ou avant, découvrir ma sexualité pure avec un mec. Voilà, j'ai voulu dissocier les deux avant de merger, enfin fusionner les deux. Ouais. Ça, c'était très important pour moi.
D'accord.
Peut-être parce que j'ai assumé très tard. Mm-hmm. Néanmoins, maintenant, pour la nouvelle génération, ben, je pense qu'il y a une forme de liberté qui est très bien pour eux. Et je suis assez épaté par l'acceptation déjà de la sexualité des jeunes. Je trouve ça génial. Mm-hmm. Et puis encore plus de leur kink, c'est-à-dire que ils assument être casteurs, ils assument être puppy, ils assument aimer porter des couches, ils assument aimer les baskets, et je trouve ça génial. Mmh. Je pense que ma génération était beaucoup plus encore dans une forme de, comment dire, de culpabilité d'avoir ce genre de pratique et de kink. Donc, et je pense que c'est très déculpabilisé, et je trouve ça génial. Mmh. Parce qu'après, chacun va trouver probablement une forme d'équilibre déjà dans sa sexualité et sa sensualité à travers ça. Mais il faut faire attention à toujours ne pas en vouloir plus. Et à un moment, ben, s'ennuyer très rapidement. Alors, s'ennuyer très rapidement, c'est-à-dire peut-être qu'à 30 ans, ils vont dire, ben voilà, j'ai fait le tour de la question, maintenant je m'ennuie, il n'y a plus rien de nouveau, il n'y a plus rien.
Est-ce qu'elle est progressivement
Moi, je pense qu'il faut... Ouais, après, c'est la nature de chacun.
Ça, oui, bien sûr.
Mais ouais, je pense qu'il faut mieux y aller progressivement, y aller pas à pas. Et un conseil, par exemple, que je vais donner à un casseur qui n'a jamais rien fait, c'est peut-être de commencer par un truc petit déjà pour voir comment il le ressent, pour justement aller de plus en plus loin s'il voit qu'il s'y plaît. Et je trouve ça très intéressant d'y aller progressivement. Mais ça, c'est la nature de chacun. Il y en a, ils veulent tout de suite. Et puis, il y en a, ils sont prêts justement à faire une forme de parcours initiatique de caste pour découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau, une sensation nouvelle.
Ouais. Okay. Je voulais juste revenir tout à l'heure, donc, tu parlais de toi, ton expérience et des jeunes d'aujourd'hui qui ont plus de facilité pour accepter leur sexualité, donc ce qui inclut leur kinks. À ton avis, qu'est-ce qui aujourd'hui permet, facilite, fait que la nouvelle génération ou les nouvelles générations ont cette facilité?
Internet, la communication, la surnotification. non, mais Internet, bien entendu, c'est quand même une mine d'informations, de recherches. Après, on en fait ce qu'on en veut d'Internet, mais je pense que c'est le média et puis le moyen qui permet justement de s'ouvrir, de découvrir, chacun à sa vitesse, ce genre de choses. Et je pense que les jeunes sont maintenant des digital natives, donc ils savent trois fois mieux que moi utiliser tous les espaces qui existent comme les réseaux sociaux. Et je pense que les réseaux sociaux ont une puissance énorme, quelque part, de formation, de découverte et de prise de contact. Moi qui suis maintenant d'une génération à 52 ans, ça a été une découverte. Et c'est peut-être ce qui m'a permis aussi, évidemment plus tard, à oser aller vers les autres, après avoir assumé ce que je disais plus tôt, ma sexualité et tout, et rentrer dans cette communauté à pas feutrer, enfin très doucement, à pas de chat, et de rencontrer des gens. Ben oui, d'autant plus dans ma nature en plus. Donc, comme je suis quelqu'un d'extrêmement timide, généralement en société, donc même s'il y avait eu des endroits connus pour les casteurs, j'y serais jamais allé tout seul.
Ouais.
Je vais déjà pas en boîte tout seul dans une boîte gay, donc encore moins là. Donc Internet est génial pour ça, est génial. Mmh. Et comme tu l'as dit, avec les dangers, c'est-à-dire surtout sur la pratique du casting, ben, c'est là où il faut être extrêmement prudent parce que il y a plein de choses à respecter et dans les deux sens, celui qui le fait, celui qui le porte. Donc,
Est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus en termes de peut-être règles entre guillemets pour éviter tous les risques, parce qu'on l'a dit, c'est quand même du coup un acte en soi médical à la base, donc qui comporte des risques pour la santé, en tout cas dans un premier plan physique, voire après psychologique, selon les jeux qu'on peut créer.
Alors, la première chose que je donnerais, c'est avoir confiance avec la personne avec qui on va le faire. Moi, j'aime bien généralement aller boire un verre ou dîner avec la personne avant de le faire. Que ce soit la personne qui va porter le plâtre ou la personne qui sera plâtrée. Je pense que c'est bien parce que y a un filtre qui, sur les réseaux sociaux quand on échange, qui est complètement levé quand on rencontre les gens. C'est-à-dire on peut avoir confiance en une personne sur Internet parce que les échanges sont très bons, mais le contact physique avec la personne peut justement refermer toutes ces portes. Et je pense qu'il faut être en confiance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la sécurité, évidemment, puisque c'est un acte médical, hein, de poser à plâtre. Donc, c'est la communication. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes communiquent. Un, que celui qui va faire le plâtre, bah, déjà, ait un petit peu d'expérience en la matière. Donc, bah, aller voir des vidéos. Puis, il y a quand même, on trouve des vidéos assez facilement sur YouTube pour comment faire un plâtre. Donc, éviter que ce soit le premier plâtre que va faire la personne, comme ça, on a un peu moins de risques. Et puis, c'est ce que je dis, la communication, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne qui porte le plâtre, ben, le dise, ici c'est froid, j'ai les orteils, j'ai des engourdissements, et je pense qu'il faut tout de suite arrêter l'aventure si la chose se prolonge pour la sécurité de la personne. Et ça, pour moi, c'est primordial. Mais je pense que c'est commun à toutes les pratiques un peu kink, un peu extrêmes, c'est la communication et la sécurité avant tout. Et ça, j'avoue, je suis un petit peu... sévère là-dessus, et parfois je vois des choses et je me dis non, là faut pas.
Ouais, ouais. Et, d'accord.
Donc communication, voilà, c'est de mettre au mot communication.
D'accord. Et est-ce que justement il y a du matériel, des accessoires qui sont indispensables pour cette pratique?
Oui, bien sûr. Déjà, il faut respecter un petit peu la pratique médicale, c'est-à-dire. Toujours avoir ce qu'on appelle le jersey, l'espèce de première couche qu'on va mettre. Mettre du padding pour le confort, c'est la ouate justement qu'on va mettre sous le plâtre. Et après la résine, donc il faut que ce soit quand même aussi une résine de qualité, donc ça va être quelque chose de médical. Après, ça peut être du plâtre pur, ce qu'on appelle du plâtre de Paris. Donc là, c'est un peu plus simple parce que on peut trouver soit du plâtre médical, mais aussi du plâtre dans les magasins d'art décoratif. Et, à l'époque, on le faisait aussi avec ça, parce que c'était beaucoup plus facile à acheter. Après, à partir du moment où on fait un plâtre en résine, il faut absolument, je pense, une scie oscillante. C'est obligatoire. Et non seulement il faut
en avoir... Ça va être pour retirer le plâtre.
Pour retirer le plâtre. Donc, c'est une scie qui va vibrer pour pouvoir retirer le plâtre. Moi, je pense que c'est nécessaire. Et non seulement avoir la scie, mais avoir une lame de rechange, parce que la lame, elle peut casser avec les vibrations et la chaleur. Donc, toujours avoir un coup d'avance. Donc, ça, pour moi, c'est le minimum. Du bon matériel médical, même si c'est un petit surcoût. Ouais. Et puis, la scie pour pouvoir retirer en résine. Après, si c'est un plâtre en plâtre, c'est un tout petit peu plus facile, mais la scie, pour moi, est évidente et non négociable.
D'accord. Et pour ce qui est du plâtre, comment est-ce que ça se passe pour la pose? Est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, en termes de protection, enfin, je sais pas, j'ai dans l'idée que ça peut être quand même assez salissant. Enfin, là, on fait du plâtre aussi à la maison pour reboucher les trous, etc. Alors, ça peut être salissant.
Alors, si c'est du vrai.
Il y a des choses à prévoir.
Oui, bien sûr. Alors, si c'est de la résine, déjà, l'autre point, faut des gants, c'est-à-dire faut toujours porter des gants en latex parce que la résine est extrêmement abrasive et extrêmement, ça va un peu
tout de suite adhérer
aux doigts et ça va être très long à retirer, puis ça c'est pas bien.
Parce ça que peut être douloureux aussi, j'imagine, si on tire.
Ouais, ça peut être un peu douloureux, mais c'est plutôt gênant et puis c'est très 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 collant. Donc obligatoirement porter des gants en latex quand on pose une résine. Et puis si c'est du plâtre, là faut vraiment prévoir une bâche. Parce que c'est extrêmement messy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ça va mettre vraiment un boxon pas possible, parce que ça coule, parce que c'est beaucoup plus liquide, et dans les plâtres, c'est clair que là, faut vraiment, si on veut pas avoir un appartement tout blanc après une session plâtre, faut mieux ça.
Ouais.
Et puis après, les deux points importants, c'est le temps de pose, c'est-à-dire que, enfin de séchage, on va dire, c'est-à-dire pour une résine, c'est très rapide, en une demi-heure, c'est bon. Par contre, un vrai plâtre de Paris, ça peut aller jusqu'à 24 heures pour sécher. Donc,
d'accord.
Voilà. Et puis après, ce sont deux sensations différentes pour les personnes. Déjà, le plâtre de Paris va être beaucoup plus, moi je trouve, agréable à toucher. C'est plus lourd, donc pour certains, ça peut être un argument supplémentaire pour le côté bondage, c'est plus lourd. Et par contre, le risque, c'est que, ce que je disais, c'est très bazar quand on le fait, et puis ça peut casser plus facilement.
D'accord.
Et la résine, a ce côté plus pratique d'être sèche rapidement, ça se coupe plus facilement avec la scie aussi, sauf que c'est un peu plus cher et faut porter les gants en latex pour la porter. Mais voilà, c'est deux sensations complètement différentes.
Et justement, donc pour le plâtre, ça va être de la poudre qu'on mélange?
Non, du tout. Non, ce sont des bandes plâtrées aussi. C'est-à-dire que sur une bande de de gaz, je crois. Ben, il y a du plâtre qui est appliqué dessus et on enroule le membre comme on ferait avec de la résine. C'est exactement le même principe.
D'accord, donc c'est des bandes
Ce
dans
sont
les
des
deux
bandes
cas,
plâtrées. Ouais.
mais dans la première, pour les bandes plâtrées, donc ça va être du plâtre qui est incorporé
Ouais.
directement à une bande.
Ouais, c'est
Faut
ça.
l'humidifier,
Alors,
faut...
il y a... c'est la technique. Donc, dans ce cas-là, par contre, avant d'enrouler la bande plâtrée sur le membre, on va la plonger dans l'eau, justement, pour activer le plâtre qui est sec. Et donc, et tout de suite, là, on est vraiment obligé de la plonger dans l'eau pour le faire. Par contre, pour la résine, il y a deux techniques. Soit on plonge aussi la bande avant de l'appliquer, mais par contre, la polymérisation se fait tout de suite, donc il faut être très rapide. Il y a une autre solution qui est très bien, c'est-à-dire de poser la bande sans la tremper dans l'eau, et puis après, avec un spray avec de l'eau, on met du spray autour du membre. Et là, c'est plus pratique. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique avec le spray, avec la
On
résine.
peut plus facilement gérer la
Oui,
polymérisation, donc, et
exactement.
du coup une réaction chimique
Oui.
entre la résine et l'eau qui va faire que ça durcit, c'est ça? Ça se
Exactement,
solidifie.
exactement. Et d'autant plus qu'à partir du moment où la bande de résine est sortie de son sachet, elle commence déjà à polymériser à cause de l'humidité ambiante. Donc,
D'accord.
ouais.
Ok.
Elle commence déjà, donc ça va pas durcir aussi vite que si on l'avait plongée tout de
Oui,
suite en la
oui, oui.
sortant de son sachet, quoi.
D'accord. Est-ce que tu as du coup d'autres conseils peut-être aussi pour les personnes qui aimeraient essayer mais qui n'osent pas, peut-être qui, comme toi, à un moment de ta vie, culpabilisaient ou avaient honte, ou ben, des personnes qui essayent déjà mais qui voilà, se posent des questions peut-être.
Bah, c'est essayer d'en parler avec des gens sur Internet dans un premier temps, puisque l'Internet a ce point positif et négatif d'un certain anonymat. Donc voilà, la personne peut se sentir un peu plus confiante d'en parler sans être connue. C'est d'en parler peut-être avec plusieurs personnes, c'est-à-dire avec des personnes de son âge, peut-être des personnes un peu plus âgées, avoir leur retour d'expérience. Et puis peut-être se poser la question, c'est-à-dire un peu freiner le côté fantasme au départ, parce que même si c'est très important, hein, bien sûr, d'avoir ce fétiche fantasme, de voir si c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire, et puis d'être assez pragmatique et assez terre à terre au tout début, justement, pour se sentir en confiance, pour se lancer. Et je pense que c'est une rencontre à un moment, hein, c'est une rencontre avec une personne, un groupe de personnes qui va faire, bah, finalement là je suis en confiance, donc je suis prêt à les rencontrer pour passer à l'acte. Pour passer à l'acte, tout simplement.
D'accord.
Mais oui, c'est toujours, je me répète, hein, mais c'est la communication et l'échange qui va faire que tout se passera bien, quoi. Mais il faut, pour les premières fois, oui, c'est quand même mieux de rencontrer des personnes qui ont déjà eu cette expérience, ou au moins qui ont été formées par des personnes qui ont déjà fait des plâtres comme ça. Voilà. Et
D'accord.
après, voilà, on s'amuse, quoi.
Et pour terminer, est-ce que tu aurais peut-être des recommandations de sites internet, de groupes, de livres, de films, etc., pour explorer le sujet du plâtre, du cast?
Alors, livre, pas vraiment, sauf pour les plus sérieux d'entre eux qui voudront aller chercher des livres médicaux relatifs à tout ce qui est orthopédie. Ça existe, hein. Chez Gilbert Jeune, il y en avait. Regarder des vidéos internet, parce que même quand c'est dans un cadre kinky, il y a deux types de vidéos. Il y a des vraies vidéos médicales, souvent d'étudiants qui ont pris en vidéo comment faire un plâtre. Donc ça peut être intéressant de voir la procédure avant de se lancer, dire ben voilà, c'est comme ça que ça va se passer, ça peut
Là,
rassurer.
pour le coup, la procédure médicale.
Exactement. Après, là, ça va être un truc de vieux, mais évidemment, il y a des films de référence par rapport à des plâtres. Le principal, c'est Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, qui est une sorte de référence, mais pour les plus anciens d'entre nous. Après, évidemment, sur les forums, il y a tous les films qui existent, où à un moment, un personnage porte un plâtre. Évidemment, ça peut mettre la communauté en émoi. Il y a un tel film qui va sortir, il va porter un plâtre. Après, évidemment, ça va être les commentaires. Ah, il est réaliste. Où il n'est pas du tout réaliste. Les livres, on en a parlé, à part ceux tout à l'heure, mais bah malheureusement, tant mieux pour la communauté hétéro, bah, c'est deux, dont Romain Slocombe, hein, je vous dis, qui est quelqu'un de très gentil en plus, j'ai échangé deux fois avec lui, qui est vraiment adorable, très ouvert à discuter de ça. Et puis en film, je me souviens plus du nom, mais il y a un compte Facebook justement où une personne référence tous les films où un personnage porte un plâtre.
D'accord.
Je me souviens plus du nom, peut-être à mettre après dans les commentaires ou comme ça. Mais, et c'est sympa du coup parce que ça permet d'avoir une espèce de bible de tous les films où un personnage porte un plâtre. Et puis après, c'est les réseaux sociaux. On revient toujours au même truc, c'est-à-dire. Le plus actif actuellement semble être quand même Instagram. Je pense que beaucoup ont quitté Facebook, mais Facebook, Instagram, je pense qu'aujourd'hui, ça reste toujours les deux principaux. Dans une moindre mesure, Twitter pour les casteurs. Et TikTok, n'en parlons pas, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup.
D'accord. Ok.
Voilà. Donc, ouais, voilà. Et puis, rentrer en contact avec ces gens-là et discuter avec eux, quoi. Et puis, vous commencez par chercher des pseudos qui contiennent les mots plâtre, gips en allemand, puisque la communauté allemande est très active, et puis cast, et puis vous allez assez rapidement comprendre en voyant la photo de profil qu'on a affaire à un casteur ou pas. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, du coup, de nous avoir partagé ton expérience et ton
avec
vécu,
plaisir.
Soit en tant que casteur ou casté. Et. On a ainsi pu parler de l'évolution aussi de cette pratique au fil des années.
Ouais.
Et du coup, on repart avec plein de précieux conseils pour pratiquer pour réaliser cette pratique en toute sécurité.
Ouais,
en tout cas, réaliser cette pratique en prenant le plus de mesures possibles pour éviter les risques qui restent quand même existants. Il faut rester prudent.
Ouais, d'autant plus que je note que les jeunes sont très curieux. Il y a une espèce en ce moment de recrudescence de personnes jeunes qui sont curieux par rapport à ça et justement qu'ils fassent un petit peu attention. Je ne veux pas jouer les vieux conseils parce que je n'ai pas envie de jouer les vieux imbéciles, mais qu'ils fassent un petit peu attention et justement ils se renseignent bien avant. Parce
D'accord.
que je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se déclarent casteurs, tant mieux pour la communauté, mais voilà, prenez un peu de recul et prenez vos informations avant de rentrer dans ce type de pratique. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
Bah, de rien.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup à J-Mobilis pour sa participation au podcast. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram @jim-8o-bilis. N'oubliez pas que vous pouvez consulter un professionnel de santé si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez aussi m'envoyer un message pour que je vous propose des professionnels à contacter. N'hésitez pas à m'envoyer un message, un vocal, un mail ou à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous souhaitez participer au podcast. Fétichement vôtre, un homme curieux.